Chapitre 19. L'immortelle péruvienne. Les paroles d'amour sont comme des flèches lancées par un chasseur. Le cerf qui les a reçues continue à courir et l'on ne sait pas tout de suite que la blessure est mortelle. Maurice Magre. 19 ans plus tôt, février 1991. Kate a 16 ans, Nick a 23 ans. Le restaurant d'une station-service près de St. Helens, en Oregon. Il neige. La salle est presque vide. Un unique client termine ses œufs bénédicts en jouant une partie sur un échiquier électronique. Derrière le comptoir, la très jeune serveuse écoute l'album Nevermind qui tourne dans le lecteur CD. Un livre de biologie ouvert devant les yeux, elle paraît pleinement absorbée par sa lecture, même si son corps, lui, vibre discrètement au rythme des chansons. Mademoiselle, pouvez-vous me resservir du café, s'il vous plaît? Kate lève la tête de son manuel, s'empare de la cafetière qui chauffe sur son support et s'avance vers le client. Elle le sert tout en évitant de croiser son regard. Son attention se porte sur la partie d'échecs qu'il est en train de disputer. Elle se mord la langue, hésite à lui faire une remarque, à sortir du principe qu'elle s'est fixé, se tenir le plus possible éloigné des hommes. Finalement, alors qu'elle le voit prendre une pièce sur l'échiquier, elle franchit le pas et ordonne. « Reposez votre tour et oubliez le rock. »« Pardon ?» demande Nick. Sa voix est mélodieuse et ensoleillée. Pour la première fois, elle le regarde vraiment. Il est habillé tout en noir, mais son visage est avenant et ses cheveux brillent comme du miel. Sur ce coup, ce n'est pas une bonne idée de vouloir rocker, explique-t-elle sûre d'elle. Déplacez plutôt votre cavalier en E7. Et pourquoi donc? Vous en êtes au 10e coup, n'est-ce pas? Nick regarde l'échiquier et acquiesce. Exact. Alors, cette configuration de jeu suit le modèle d'une partie célèbre, l'immortelle péruvienne. Jamais entendu parler. C'est une partie très connue pourtant, remarque-t-elle avec une pointe de condescendance. Il s'amuse de l'audace de cette fille. Éclairer ma lanterne? Elle a été disputée en 1934 à Budapest par le grand maître péruvien Esteban Canal. Mat en 14 coups, en sacrifiant sa dame et deux tours. Il l'invite à s'asseoir d'un geste de la main. Montrez-moi ça. Elle s'interroge, mais finit par prendre place devant lui et commence à bouger une pièce, puis une autre, commentant ses coups à toute vitesse. Donc, si vous roquez, le pion de votre adversaire prendra le vôtre en B4, puis votre dame prendra sa tour en A1, d'accord? Ensuite, son roi se déportera en D2 et là, vous n'avez pas le choix. Votre dame doit prendre sa tour en H1. La sienne prend l'un de vos pions en C6, vous obligeant à prendre sa dame, et la partie se termine par un mat lorsque le fou se déplace en A6. Nick reste sidéré. Kate se lève et termine sa démonstration en précisant: c'est un mat de Bodden. Un peu vexé, il fixe l'échiquier, rejouant la partie dans sa tête. Non, attendez. Pourquoi madame doit-elle prendre sa tour? Elle hausse les épaules. Si c'est allé trop vite pour vous, refaites la partie au calme. Vous verrez que c'est la seule solution tenable. Surmontant le camouflet qu'il vient de subir, il lui propose de jouer une partie, mais elle jette un coup d'œil à sa montre et décline sa proposition. Il la regarde retourner derrière le comptoir, alors que le patron du restaurant fait son apparition. « C'est bon, Kate, tu peux y aller !» lance l'homme en lui tendant 4 billets de $10. La jeune fille empoche l'argent, défait son tablier, range son livre dans son sac et traverse la pièce pour sortir. Nick l'interpelle. « Allez, une petite partie à $10 », insiste-t-il en posant un billet sur la table. « Je vous laisse les blancs. » Kate regarde le billet. Hésite un quart de seconde, puis s'assoit et avance un pion. Nick sourit. Les premiers coups se jouent en peu de temps. Kate comprend rapidement qu'elle va gagner la partie et qu'elle peut même y arriver très vite, mais quelque chose en elle s'y refuse. Presque inconsciemment, elle fait l'impasse sur certains coups pour prolonger le moment. Pendant quelques instants, elle s'oblige à ne pas regarder par la fenêtre pour ne pas voir les flocons de neige qui tourbillonnent dans le ciel. Dehors, elle sait qu'il y a les brûlures du vent, les morsures du froid, la peur, l'incertitude. Elle sait que tôt ou tard, elle va devoir trouver le courage de les affronter. Mais pour l'instant, elle s'accorde une parenthèse avec ce chevalier noir aux cheveux d'or, percé par la musique, dans la chaleur un peu poisseuse du restaurant. « Je reviens », lance Nick en se levant. Elle le regarde se diriger vers les toilettes. Il est de retour 2 minutes plus tard et se resserre une tasse de café comme s'il était chez lui, avant de revenir s'asseoir. Ils jouent tous les deux leurs coups de plus en plus lentement. Elle prolonge encore le plaisir 5 bonnes minutes avant de brusquer les choses. En 3 coups, Nick se retrouve pris à la gorge. Échec et mat. « C'est fini », dit-elle d'un ton dur en empochant le billet sur la table. À son tour, elle se lève et attrape son sac. « Attendez », réclame-t-il. « Offrez-moi une revanche. » « Non, c'est fini. » Elle part en refermant la porte derrière elle. Il la suit du regard à travers la vitre. Ses dernières paroles résonnent en écho dans sa tête. « C'est fini. » « Bordel, c'est qui cette fille ?» demande-t-il en avançant vers le comptoir. « J'en sais rien, » répond le patron. « Une Russe, je crois. Je l'ai embauchée ce matin. Son nom ? Me souviens plus. Un truc compliqué, russe, quoi. Alors elle se fait appeler Kate. » « Kate, » répète Nick dans un murmure, comme pour lui-même. Il hausse les sourcils, tire son portefeuille de la poche de son jean et laisse un billet pour régler l'addition. Puis il enfile son gros blouson, noue son écharpe et cherche ses clés de voiture, d'abord dans la poche de son pantalon, puis dans celle du blouson. « Merde !»« Quoi ?» demande le patron. « Elle m'a piqué mes clés de voiture !» Le même jour, 5 heures plus tard. Les coups frappés à la porte tirent Nick de son sommeil. Il ouvre les yeux, regarde autour de lui. Il lui faut quelques secondes pour se souvenir où il se trouve, dans la petite chambre d'un motel un peu glauque de l'Oregon, et pourquoi ? Parce qu'il a été assez con pour se faire piquer sa voiture par une gamine alors qu'il a une réunion décisive à San Francisco dans quelques heures. « Oui ? » demande-t-il en ouvrant la porte. « Monsieur Fitch ? Je suis Gabriel Alvarez, adjoint au bureau du shérif du comté de Columbia. Nous avons retrouvé votre voiture et votre voleuse. Vraiment ? Puis-je la récupérer rapidement ? Je suis assez pressé et... Venez, je vous emmène. » Le 4x4 du shérif adjoint traverse la nuit laborieusement. La neige a cessé, mais la route reste très glissante. « Qu'est-ce que vous êtes venu foutre dans notre bled ?» grogne Gabriel Alvarez. J'ai assisté à une convention de jeux vidéo à Seattle. Je faisais la route pour rentrer à San Francisco lorsqu'il a commencé à neiger et... Le jeu vidéo, vraiment ? Mon gamin passe des heures devant ces trucs-là. Ça nous promet une belle génération de décérébrés. Ça se discute, répond Nick prudemment. Et ma voiture ? Où l'avez-vous retrouvée ? Planquée dans un sous-bois dans une forêt à 20 bornes d'ici. La jeune fille dormait à l'intérieur. Comment s'appelle-t-elle ? Ekaterina Zvatkovski. Elle a 16 ans. D'après ce qu'elle nous a dit, elle habitait dans une caravane avec sa mère à Bellevue. La maman est morte il y a 2 mois. La fille a refusé d'être placée en famille d'accueil et elle a fugué du foyer où on l'avait assignée. Depuis, elle squatte à droite à gauche. Que va-t-il lui arriver ? Rien de bon, j'en ai peur. Nous avons contacté les services sociaux, mais ça ne réglera pas le problème. Je devrais peut-être retirer ma plainte ? Vous faites ce que vous voulez. Je pourrais lui parler ? Si ça vous chante. Mais je vous préviens, on l'a mise en cellule, histoire de la faire un peu flipper quand même. Nick pousse la porte de la cellule. Salut Kathleen. Ouh, on se gèle les fesses ici. Cassez-vous. Doucement, c'est quoi ton problème? Ma mère est morte, mon père s'est tiré, je n'ai pas de fric, pas d'endroit où dormir. Ça vous va comme tableau? Il s'assoit à côté d'elle sur le banc en bois accroché au mur de la cellule. Pourquoi refuses-tu d'aller dans une famille ou dans un foyer ? Laissez-moi ! Crie-t-elle en lui donnant un coup dans l'épaule. Pour se défendre, il lui bloque les poings. Calme-toi, bon sang ! Elle le défie du regard et le repousse à l'extrémité du banc. Mais qu'est-ce que tu comptes faire au juste, par ce froid ? S'énerve-t-il. Zoner indéfiniment dans cette région pourrie ? Lâchez-moi, putain ! Le flic m'a montré ton sac. J'ai vu tes manuels de biologie. Tu veux devenir médecin, c'est ça ? Ouais, et j'y arriverai. Non, pas si tu sèches les cours. Elle tourne la tête pour qu'il n'aperçoive pas les larmes qui lui montent aux yeux. Elle sait qu'il a raison. Elle a honte. « Laisse-moi t'aider, » demande-t-il. « M'aider ? Pourquoi m'aideriez-vous ? On se connaît même pas. » « C'est vrai, » admet-il. « Mais qu'est-ce que ça change ? Les personnes que je connais le mieux sont celles que je déteste le plus. » Elle reste ferme. « Je vous ai dit non. Les gens ne vous aident jamais gratuitement. Je ne veux rien vous devoir. Tu ne me devras rien. On dit toujours ça au début. » Il tire son échiquier de son sac et change de sujet. « Tu m'accordes ma revanche ?»« Vous ne capitulez jamais, vous, » soupire-t-elle. « Je crois que c'est une qualité que tu possèdes aussi, Caitlin. Arrêtez de m'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'on joue cette fois ?»« Si tu gagnes, je me casse, » propose-t-il. « Et si vous gagnez, tu me laisses t'aider. » Elle renifle. Il lui tend un mouchoir en papier. « Ok, » décide-t-elle. « Après tout, si vous voulez une deuxième rouste, à vous les blancs. » Il sourit, installe les pions sur l'échiquier et bouge sa première pièce. Elle fait de même. « C'est vrai qu'on se les gèle ici, » dit-elle en grelottant. « Prends mon blouson, » propose-t-il. Elle hausse les épaules. « Pas besoin. » Il se lève et lui pose son cuir sur les épaules. Elle se blottit à l'intérieur et concède. « Ça pèse une tonne, ce truc, mais c'est super chaud. » Ils reprennent leur partie. Alors qu'ils jouent en silence, elle se rend compte que la crainte et la méfiance sont en train de refluer. Pourtant, l'odeur de la peur est incrustée en elle depuis qu'elle est toute petite. Peur que sa mère meure, peur qu'elle perde leur logement, peur de se retrouver seule au monde. Elle ferme les yeux et prend une décision qui la déleste d'un poids. Elle va perdre la partie. Elle va accepter de se laisser aider par ce chevalier venu de nulle part. Elle ne le sait pas encore, mais elle est en train de vivre un moment décisif de son existence. Dans les années qui vont suivre, elle se repassera des milliers de fois le film de sa première rencontre avec Nick Fitch, le premier homme qu'elle aimera. Le seul. Chaque fois qu'elle aura besoin de courage ou qu'elle sentira sa détermination flancher, elle trouvera de la ressource en repensant à cet instant magique et inattendu où Nick a débarqué dans sa vie. Ce jour où elle décida qu'elle lui appartiendrait à tout jamais. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort les sépare. « Échec et mat », dit-il en déplaçant sa dame. « D'accord. La deuxième manche est pour vous. » Satisfait, il lui posa la main sur l'épaule. « Bon, écoute-moi bien, Caitlin. Je vais retirer ma plainte et appeler mon avocat. D'ici là, je te demande de rester tranquille, ok ?»« Votre avocat ? Il va te sortir de là et t'éviter les foyers et les familles d'accueil. Il va s'arranger pour que tu aies le droit de poursuivre ta scolarité au St. Joseph College. C'est quoi ? Un petit lycée privé catholique tenu par des bonnes sœurs. J'y ai fait mes études. C'est l'endroit idéal si tu veux vraiment travailler. Mais comment je vais faire pour... Tu auras droit à 3 années de cours, tout frais payés, la coupe-t-il. Tu seras logé, blanchi, nourri. Tu n'auras à te préoccuper que de tes études. Si tu es sérieuse, ça te mènera jusqu'à l'école de médecine. Après, il y aura des bourses et ce sera à toi de te débrouiller. On est d'accord ? Elle acquiesce en silence, puis demande « Je ne vous devrai rien ?» Il secoue la tête. « Non seulement tu ne me devras rien, mais tu n'entendras plus jamais parler de moi. » « Pourquoi faites-vous ça ?»« Pour que tu ne puisses pas dire qu'on ne t'a pas donné ta chance, » répond-il comme une évidence. Il range l'échiquier dans son sac, se lève pour partir et regarde sa montre. « Je suis en retard, Caitlin. On m'attend à San Francisco. Heureux d'avoir croisé ta route. Prends soin de toi. » Il s'en va en lui laissant son blouson. Oubli volontaire ou acte manqué, elle le gardera toute sa vie.